Assalamu alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle saison de La Tay. Franchement, quand on préparait cette saison avec la team, ça nous a vraiment choqué de se rendre compte qu'on rentre déjà dans la quatrième année de l'émission. Et je pense que quand on a commencé ce projet, on n'aurait jamais pensé déjà qu'il allait prendre l'ampleur qu'il a et qu'on allait continuer aussi longtemps. Donc c'est vraiment cool et j'ai hâte de pouvoir démarrer cette saison et de voir ce que ça va donner. À ma table aujourd'hui, j'ai Théophile. Théophile, comment tu vas ?
Hello, hello, ça va super bien. Je suis absolument enchanté d'avoir tout le monde autour de la table. Et ouais, allez, saison 4, on y va.
Aujourd'hui, on va parler de métissage dans la Tay, plus précisément du métissage Maghreb, autre pays. Donc on a ramené des potes pour discuter de ce thème avec nous. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir Théophile à ma table parce que je sais que c'est des problématiques qui te touchent aussi personnellement et qui t'ont touché dans la construction de ton identité. On va d'abord faire un petit tour de table pour que chacune se présente. Donc on a Lydia avec nous qui était déjà dans l'épisode, dans un autre épisode. Lydia, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui.
Et en plus de ça, on a deux potes qui sont venus, donc Farah et Safia. Vous allez vous présenter. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom, votre prénom, je l'ai dit, donc c'est bien. Mais redites-le pour que les gens puissent associer votre voix, en fait, à qui parle. Donc redites, enfin, votre prénom, votre âge, votre origine et ce que vous faites dans la vie.
Ok. Salut, moi c'est Safia, j'ai 27 ans, je suis freelance en communication digitale et en web design. Et à côté, je fais de la création de contenu sur Insta et je suis marocaine. Voilà.
Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Moi c'est Farah, j'ai bientôt 24 ans. Je suis en master 2 de droit des affaires et je suis la fondatrice et présidente du média associatif Récit d'Algérie. Et je suis algérienne par ma mère et albanaise par mon père.
Je vais juste commencer rapidement sur pourquoi cet épisode. En fait, cet été, j'ai réécouté les anciens épisodes de La Tay. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un focus sur une DJ et artiste qui s'appelle Paloma il y a 2-3 ans, je dirais. Paloma Colombe, c'est ça. Et en gros, je me souviens que la première question que je lui avais posée, c'était « C'est quoi ton premier souvenir avec l'Algérie ?» Et elle m'avait répondu « Mon premier souvenir avec l'Algérie, c'est du racisme. » Donc, elle était française et algérienne. Et en fait voilà, genre en gros elle expliquait que son premier truc c'était un clivage en fait entre ces deux familles dans lequel elle n'arrivait pas à se retrouver. Donc je vous invite à écouter l'épisode si vous l'avez pas écouté, et en gros je voulais profiter de cette anecdote pour lancer comment vous en fait vous avez découvert votre origine, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été ancré en vous. Donc Safia, peut-être tu peux commencer.
Comment j'ai découvert mon origine? En fait, moi, mes deux parents sont nés au Maroc, mes parents, grands-parents, même arrière-grands-parents, donc ils sont nés au Maroc, ils ont grandi au Maroc, enfin mon père est arrivé en France que lorsqu'il s'est marié avec ma mère, donc il avait la trentaine. Ma mère, elle est née au Maroc, mais elle est partie vivre en France très tôt, enfin avec ses parents, ses frères et sœurs. Donc, eux, ils sont marocains, quoi. Ils se posent pas la question. Et moi, ça a longtemps été comme ça, parce que quand on est petit, voilà, on demande d'où on vient, on nous dit t'es française d'origine marocaine. Donc, j'avais toujours ça et c'était ok pour moi. Mais je pense qu'en arrivant en collège, c'est vraiment le moment où tout le monde se définit par ses origines. Genre, ouais, Maroc en force, Algérie en force, les Portugais d'un côté, les, enfin voilà, tout le monde se définit vraiment par son origine. Et moi, il y avait ce moment où je me disais marocaine, mais je suis aussi noire. Donc, il y avait toujours ces deux côtés où, quand on était là, ouais, Maroc, bah ok, j'y vais. Puis, quand on était là, ouais, Renoir, bah j'y étais aussi, tu vois. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, enfin, à me questionner plus sur mes origines. Et aussi à me dire en fait que bah, je ressemblais pas forcément à la marocaine de base. Donc je dirais que c'est ouais, vers le collège, l'adolescence, où j'ai commencé un peu à me questionner en tout cas. Et à pas forcément me reconnaître que chez les Marocains.
Voilà. Clara.
Ok. Moi franchement, je crois que je sais pas, c'est ancré. Enfin, je sais pas quand est-ce que j'ai découvert genre, mes origines. Je crois que j'ai toujours grandi avec, en allant en Algérie. Ouais, presque tous les étés, et pareil en allant, enfin, en fait on est albanais du Monténégro, qu'en allant au Monténégro, puis j'ai grandi, en fait moi donc, je suis la deuxième génération après l'immigration, c'est mes grands-parents du coup qui ont immigré en France, et j'ai toujours, enfin jusqu'à mes 6 ans en fait, ma grand-mère albanaise elle me gardait, donc je parlais avec elle en albanais, etc., enfin la culture est archi présente.
C'est super ça.
Ouais, et du coup en l'été on allait en Algérie, puis bah je reste beaucoup avec ma mère, donc forcément t'entends aussi parler arabe. Ou je sais pas. C'est toute petite, depuis toute petite, j'ai grandi avec mes deux cultures. Et du coup, bah, trois cultures, parce que je suis aussi française. Et c'est plus, moi, on va dire, ce qui m'a peut-être pesé. Enfin, quand je pense à mes origines, en fait, je pense plus à ce qui m'a pesé après. Au collège, c'est la question d'assimilation. Je pense qu'on va peut-être en parler. Mmh. Assimilation, genre, aux valeurs françaises et à une identité française qu'on veut imposer. Donc, ouais, moi, c'est plus ça qui m'a. Quand je pense à mes origines, je pense plus à ça que bizarrement à mes origines algériennes, albanaises, parce qu'en fait, c'est, enfin, elles sont ancrées en moi, en fait.
Mmh. Donc, ouais. Mais c'est trop bien qu'il y ait eu un bon mélange, parce que souvent, t'as souvent genre des gens qui t'expliquent que t'as eu un truc qui prime sur l'autre, genre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais moi, j'ai eu ma prof d'histoire, je me rappelle en terminale, qui m'avait dit, parce qu'elle a rencontré mes parents, enfin ma mère, elle m'a dit oui, mais vous m'avez pas dit que votre père était albanais? J'ai dit si. Elle me dit « Ah, ça va, vous êtes européenne, ça va alors
oh ?»
C'est
boss.
Des trucs comme ça, et je me dis « Mais tu sais, à quoi tu vois pas
okay. ?»
Ouais, donc ouais, c'est pour ça, en fait, ça m'a plus pesé. Après, je pense que c'est aussi le milieu où tu grandis. Mm-hmm. Enfin, moi, je sais que j'étais dans un collège, un lycée assez bourgeois, donc pas du tout le même environnement que chez moi, en fait. Enfin, hein. Et la culture à la maison et la culture dehors. Et donc, ouais.
Théophile.
Alors, pour le coup, moi, je suis franco-algérien. C'est quelque chose qui a beaucoup défini la façon dont je me suis construit. Pas dont j'ai été construit, vraiment, dont je me suis construit moi-même. Je me suis vraiment emparé de ces origines, de ces récits, de la culture, des éléments culturels qui m'étaient un peu transmis par la famille de mon père. Du coup, c'est mon père qui est algérien. Mais voilà, j'ai aussi un peu vu comment d'autres se construisaient autour de moi et je me suis dit. Ben en fait, voilà, je vais mettre aussi une limite à comment je me définis. C'est-à-dire que, par exemple, mon père est algérois et mon grand-père est kabyle de Sétif. Et par contre, est-ce que je ressens vraiment une kabylité au fond de moi? Pas vraiment. C'est vraiment quelque chose, je peux apprécier que le fait que c'est pas très très loin de qui je suis, mais je me définis pas trop comme kabyle, pas vraiment. Donc, ce qui est très drôle, parce que du coup, j'ai appris l'arabe avec de l'argot algérois des années 80. Donc, parce que, évidemment, la première source d'arabe, c'était mon père. Mais parfois, j'ai aussi des mots de dialecte marocain et tunisien qui apparaissent dans mon vocabulaire. Ce qui fait que je suis vraiment un maghrébin de France avant tout.
Ouais, et, tu sais, c'est quand tu commences à dire Safi alors qu'en vrai, en Algérie.
Absolument, bien sûr.
Et c'est génial. L'Est, personne dit Safi, tu vois, pour nous.
Ah, ouais. Non, mais c'est absolument ça. Et d'ailleurs, l'une des premières phrases que j'ai construites en arabe conversationnel, c'était pour dire, en me présentant, « Ana Fransawi Jezairi ». Et parce que c'est vraiment, voilà, mon rapport à la langue, il est surtout conversationnel, mais aussi je fais mes courses en arabe, et c'est vraiment les seules occasions que j'ai de parler arabe. Donc voilà, je suis vraiment franco-algérien, et je peux pas... avoir cette partie d'algérianité sans avoir la partie française et vice-versa, finalement. Et c'est vrai que pour moi aussi, le collège a été une période extrêmement curieuse, va-t-on dire, concernant l'autodéfinition et aussi la définition que d'autres mettaient sur moi.
C'est ça. Et pour tout le monde, je pense.
Et je passe la balle à Lydia.
Moi je me suis déjà présentée dans un autre épisode, mais je suis franco-tunisienne. Mon papa est breton et ma mère est tunisienne. Elle est arrivée en France, elle avait 18 ans environ, donc elle a vraiment grandi là-bas, elle a fait ses études là-bas. Et moi je me suis toujours, quand j'étais petite, sentie tunisienne parce que ma mère, elle mettait vraiment un point d'honneur à nous emmener le plus souvent possible à voir mes grands-parents, voir ma famille là-bas, parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. En fait, quand j'étais petite, bizarrement, je vivais plus facilement ma double identité que quand j'étais adolescente. Je me posais pas de questions, j'allais là-bas, et là-bas, j'ai toujours été Bent Leila, point quoi. J'étais pas quelqu'un d'autre, j'étais Bent Leila, la fille de ma mère, et point quoi. Des fois, mon père, il venait, des fois, il venait pas, mais ça n'a jamais été un problème. C'est plus en fait mon apparence en fait, quand j'ai vraiment genre intégré le fait que je ressemblais pas à une rebeu, enfin à la rebeu typique, genre en mode cheveux noirs, peau plutôt mat, bien qu'en Tunisie on est assez moins dans ces stéréotypes là que par exemple je pense au Maroc ou en Algérie, surtout dans le nord de la Tunisie. Et c'est en fait au moment de mon adolescence, de mon enfance, quand on m'a refusé cette identité, qu'on m'a dit non, en fait, tu mens. c'est quand on m'a dit ça que je me suis. En fait, au début, tu te dis bon, c'est un con, il comprendra. Et quand ça arrive 10 fois, 20 fois, 30 fois, et tu te dis en fait, bah, peut-être qu'ils ont raison en fait.
On commence à douter.
Tu commences à douter. Et c'est limite si tu te dis, bon, bah, si on me dit que je suis pas rebeu, bah, c'est peut-être qu'ils ont raison. Et quand j'en parlais à ma mère, elle me disait, mais non, doute pas de toi. Enfin, tu vois bien qu'à la maison, enfin, ta culture, c'est ta culture et personne ne peut te l'enlever. Et c'est ça qui a été hyper compliqué durant mon adolescence, je pense aussi en particulier au collège. Où tout le monde se définit un peu par ses origines. Et là, je suis là, moi aussi je suis rebeu, hey! Et ils sont là, genre, bah non, gros, c'était pas rebeu. Et c'est ce refus en fait qui a été hyper dur et qui m'a peut-être fait m'éloigner un petit peu, mais pas tant que ça au final, puisque je continue à aller en Tunisie l'été, je continue à avoir toute ma famille du côté de ma mère qui a une part beaucoup plus importante dans ma vie que la famille du côté de mon père, parce que j'ai beaucoup moins de famille du côté de mon père, tout simplement. Mmh. On les voit moins souvent et on se parle moins, mais voilà, je me suis perdue dans mon analyse.
C'était parfait.
Je reviens trop sur ça. Enfin, tu l'as aussi évoqué, Théophile, mais sur le fait qu'en fait on te refuse ton identité. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrives, tu te définis, parce que souvent c'est ça en fait, quand tu fais connaissance avec les gens et surtout au collège, ah, t'es de quelle origine? Et moi je sais qu'on m'a dit toutes les origines possibles, inimaginables, et en fait on me disait jamais la bonne. Et quand je disais bah ouais, je suis marocaine, ah ouais, non, tu mens, ah non, ah, j'aurais pas dit, enfin tu vois, c'est. Et du coup, c'est vrai que t'as ce truc où tu te dis bon bah. Tu vois, on te la refuse un peu, cette identité, donc c'est un peu compliqué, ouais.
T'es d'où au Maroc ?
D'Agadir. Okay. Voilà. Mais mes parents, ils sont de la région de Zagora, de base.
Ok.
Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la réponse, ah, on dirait pas, j'aurais pas dit. Et c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de la marocaine de base, blanche, un peu mat.
Mais je trouve que là, je suis désolée, je te coupe. Mais en fait, genre, le vrai thème, c'est pas le métissage, mais c'est, genre, là, il n'y a aucun de vous qui a, genre, le profil type d'un rebeu. Parce que toi, tu vois, t'es noire, mais elle a un white passing de malade. Oh, lui, il s'appelle Théophile.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, genre, il n'y a pas...
Non, mais de ouf, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais c'est... Mais c'est marrant parce que moi, c'est l'inverse totalement. Ça veut dire que, du coup, du côté de ma mère, on est algérien, du côté de mon père, on est albanais. Et c'est deux pays qui sont connus pour être très nationalistes. Mm-hmm. Du coup, les Algériens m'ont toujours dit « Ah, mais ta mère est algérienne, non, mais t'es grave algérienne. Mm. » Et les Albanais m'ont toujours dit « Non, non, c'est le sang du père qui prime, t'es albanaise. » Donc en fait, je me suis sentie à chaque fois 100% d'un côté ou de l'autre, même si je parle pas bien, donc à chaque fois, je vais bégayer en français. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que moi, je pense la première phrase que je disais en albanais, enfin, je parlais avec ma grand-mère beaucoup, mais avec les autres, non. Du coup, à chaque fois, je disais « Ouais, non, je sais pas parler albanais. » C'est comme ça,
il m'embêtait pas.
Comme ça, il m'embêtait pas à me, tu sais, à me forcer à parler parce que c'était marrant pour eux, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, voilà.
Ouais, de fou. Et moi, il y avait aussi ce truc où, parce que du coup, enfin, mes parents sont au Maroc, grands-parents, etc. Mais voilà, il y a eu du mouvement. Je suis pas que marocaine et je le sais. Et ce qui est compliqué en fait, c'est que à l'époque, en tout cas, à l'époque de mes arrière-grands-parents, il n'y avait pas ce truc de tenir un arbre généalogique, tu vois, comme un arbre, les gens ils savent retracer. Donc aujourd'hui, ma famille qui est au Maroc et qui ont connu que ça, ils ne vont pas aller se définir comme autre chose, tu vois. Et donc c'est ça aussi pour moi qui était compliqué, c'est que j'avais pas forcément de réponse aussi. Quand tu cherches un peu ton identité, tu sais que tu as le Maroc, mais tu n'as pas que ça, c'est sûr, mais tu sais, t'en sais pas réellement plus. C'est un peu compliqué aussi pour s'identifier. Et du coup, même quand je disais que j'étais marocaine, mais qu'on me dit « Alors ouais, t'es sahraouia, t'es nanana, etc. Ah, tu parles ci, tu parles ça, t'es la vie, t'es un peu en stress parce que, moi, je sais qu'il y a ça et j'en sais pas plus, tu vois. » Alors qu'effectivement, t'en as certains où, voilà, ils savent retracer, ils ont plein d'informations et tu sens que, du coup, ça donne aussi une certaine confiance, tu vois, par rapport à leurs origines.
Mais toi, justement, est-ce que quand tu vas au Maroc, ils sont dans un truc de te renier ou de te rejeter cette identité? Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de personnes noires au Maroc.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu ressens ce truc aussi quand tu vas dans certaines villes où, par exemple, ils n'ont pas l'habitude, t'as ce truc de « on te le refuse » ou tu te sens vraiment à 100%, 100% toi quand t'es là-bas, en fait?
En fait, c'est trop marrant parce qu'au Maroc, j'ai pas ce problème.
Ouais.
Genre, en fait, parce qu'effectivement, au Maroc, il y a une diversité, tu vois, de fou. C'est-à-dire que, par exemple, la famille de mon père au Maroc, ils sont vraiment noirs, beaucoup plus foncés que moi. Mais il y en a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de gens du Sud, puis il y a eu beaucoup de mouvements. Donc les Marocains, ils sont habitués, tu vois, ça va pas choquer de voir une personne noire qui parle rebeu, tu vois. Et du coup, comme je me débrouille un peu, je parle le marocain, le Darija, t'arrives, voilà, tu parles un peu, bim, ah ok, ouais, M'chafine, enfin hop, directement, il y a la conversation et on vient pas te questionner ou voilà quoi, t'es marocaine. Enfin, j'ai vraiment, c'est marrant, au Maroc, j'ai pas eu ce problème là quoi.
Ouais, mais je trouve ça quand même assez ouf que dans ces pays, ils soient vraiment beaucoup plus ouverts d'esprit qu'ici en fait, au niveau de différentes cultures et.
Alors, c'est marrant que ce soit la Tunisienne qui en parle de ça, donc parlons du colorisme en Tunisie. Après, effectivement, il y a les populations de Nawa au Maroc qui ont une part extrêmement. Quand je te dis, viens jouer au mariage, viens me désengouter, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu mystiques qui sont associés avec ces populations-là. Mmh. Et c'est vrai que culturellement, les Gnawa ont une place extrêmement importante. Et quand t'es noir, tu peux être un peu adjacente, même si t'es pas forcément Gnawa. Mais oui, donc je comprends mieux.
Ouais, et même je pense que tu vois, le Maroc aussi, c'est très différent. Par exemple, je pense à l'Algérie, tu vois, où genre les personnes noires en Algérie, souvent, ça va être des peuples qui sont dans le Sahara.
Ouais.
Et donc en fait, t'as limite une frontière géographique entre genre les blancs, enfin les Algériens blancs qui sont dans le nord et les Algériens noirs qui sont dans le sud. Et là, pour le coup, je pense que peut-être il y a un peu plus une question genre de. En fait, où ça va être plus. Enfin, ça va être moins commun, en fait. Ça va vraiment être moins commun. Genre, par exemple, je pense à Constantine. Des Noirs à Constantine, il n'y en a pas beaucoup, tu vois.
Ouais.
Et, ou alors, en fait, ça va être des Maliens ou des réfugiés.
Ouais,
ou
ça, c'est des exilés qui vont traverser le Sahara.
Mais par contre, tu descends, t'arrives à Redaya, c'est bon. Enfin, tu descends en dessous, c'est fini. Enfin, c'est que des Renois, genre. Mais t'as vraiment un truc genre hyper géographique où, justement, j'ai l'impression qu'au Maroc, il y a moins ça. Il y a moins de frontières en fait géographiques entre genre les populations noires et les populations blanches.
Après, il y a ce truc où, effectivement, enfin, il y a quand même il y a deux côtés quoi. Il y a le truc très la conversation peut se faire rapidement et tu sens que voilà, ils sont très accueillants, etc. Maintenant, je pense que quand tu creuses, cette histoire de colorisme, elle est aussi très présente au Maroc. Il y a aussi beaucoup de racisme au Maroc parce que on peut être hyper potes, genre ouais, M'chafine comme je te dis, etc. Et ça s'arrête là quoi. Après, t'es mon pote, mais viens pas marier ma soeur par exemple. Tu vois, frère, des trucs où on est amis, mais jusqu'à une certaine. Non, mais c'est vrai, tu vois.
Frère, mais pas beau frère.
Et voilà, c'est vraiment c'est ça, tu vois. Donc, c'est pas partout pareil, encore heureusement, mais c'est quand même quelque chose qui est très présent et que, ouais, on peut pas ignorer.
Théophile, il y avait une fois où tu nous avais raconté.
Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que mes parents, en fait, sont des gens qui ont des dons d'honneur à tout. Mais surtout, voilà, face à l'intolérance. Donc en fait, mes parents n'ont rien à foutre. Ce qui se passait, c'est que quand mes parents ont commencé à se fréquenter, donc pour contexte, ma mère, elle fait partie d'une famille de la noblesse française. Alors, noblesse un peu désargentée de nos jours, mais quand même. Si on gueule le bon nom de famille dans Google, on trouve quand même pas mal de gens un peu connus. Et en fait, elle a pris son destin en main assez rapidement pour ses études, par exemple, et en fait pour toute sa vie. Donc elle est très indépendante et tout. Donc quand elle a commencé à fréquenter mon père, voilà, c'était son choix, c'était vraiment, voilà, elle a fait sa vie avec lui. Et quand ils se sont mariés, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes grands-parents maternels ont boycotté leur mariage et leur union jusqu'à ma naissance. Où ma naissance a été un peu un point de ralliement, un peu, tu vois, de réunification entre elle
J'ai l'impression que
et
du
sa
coup c'est
famille.
toujours comme ça avec les naissances du premier enfant.
Voilà. C'est un peu bizarre quand j'ai appris ça, pour moi. Genre, je l'ai pas trop traité, tu vois, comme information, parce que voilà. Mais en y repensant, c'est vrai, effectivement, je me dis, merde, est-ce que, tu vois, il y a une, est-ce que j'ai un statut au-delà de ce que moi je perçois de moi-même, tu vois? Est-ce que j'ai été tu vois, le moment de jonction entre où tu sais, il y a des familles qui se rapprochaient et tout. Un peu chelou. Mais voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, opposé absolument de Lydia, mon père, par exemple, n'allait pas en vacances avec moi et ma mère et mes frères en Provence, là où résident mes grands-parents. Ou très très peu, finalement. Il y avait toujours, tu vois, pas des prétextes, mais des occasions qui faisaient que c'était un peu compliqué pour lui de venir. Et finalement, je pense que c'était pas grave pour lui. Franchement, il vivait très bien sans l'approbation de sa belle famille. De toute façon, c'est quelqu'un qui a vécu aussi sans sa famille, donc en fait, fuck, finalement. Et pour le coup, mes parents ont une force de volonté extrêmement forte. Et en fait, ils ont dû se battre contre beaucoup de choses. Mais contre énormément de choses, finalement, parce que c'est ma mère qui faisait les demandes d'appartement, parce que si tu. On t'accorde pas un appart à un mec qui s'appelle Mouloud. Et en fait, c'est pour ça que je m'appelle Théophile. Parce que mon deuxième prénom, c'est Fhel, tu vois. Et Choutri, c'est suffisamment obscur pour que tu puisse un peu baratiner dessus. Ça n'a pas toujours marché, pour le coup. Une autre anecdote, mais voilà. Et ouais, du coup, non, non, il y a eu des conflits. Ces conflits se sont résolus un peu, où en fait, tout le monde a arrêté d'en parler. Et ça s'est jamais vraiment.
Genre, c'est
Voilà.
devenu un tabou.
Non, pas un tabou, mais tu sais, quand j'en parle à mon père il me dit, bah écoute, voilà, hein, tes grands-parents, voilà, ils sont comme ils sont, et puis moi, bah, je fais ma vie, et puis voilà. Point. Il s'est pas rabaissé à faire du conflit ou à vouloir être accepté par la force. Mon père, il a fait sa life finalement, sans avoir besoin de l'aide de ses beaux-parents ou même de ses parents. Et donc finalement, je pense que ça lui a aussi plutôt pas mal servi, le fait de pouvoir être indépendant sans avoir, tu vois, à se plier. Et finalement, voilà, c'est un truc qui a suivi en fait. Après moi, bah, il se trouve que je suis pas très très typé et rebeu, donc finalement j'ai pas eu de problème en fait avec ma famille maternelle, non plus que t'as d'autres métissages dans la famille maternelle. Notamment j'ai un cousin qui est franco-espagnol. Donc voilà, ça s'est passé calmement. Il y a eu des tensions, mais elles étaient cachées à moi. Quand j'étais enfant. Et après, quand j'étais grandi, elles se sont un peu plus révélées, quand j'ai commencé à interroger les gens, alors c'était tirer les vers du nez. Donc c'était assez curieux. Niveau de ma famille paternelle, non, pas franchement pas eu de tension. Au contraire, mes tantes et ma mère s'entendent super bien. Franchement, super. J'ai de très bonnes relations avec mes tantes. Si ce n'est un peu distante, dû à la géographie finalement. Mais non, franchement, en plus j'ai hérité des cheveux de ma tante, d'une de mes tantes, donc franchement super.
Ouais, c'est ouf comment le prénom il cristallise trop de choses, je trouve.
Ah
Dans
bah
les enfants
ouais,
métissés, c'est un truc de fou.
absolument.
Alors, tu vois, moi je m'appelle Lydia, ça veut rien, en fait, ça veut tout et rien dire, tu vois.
Ouais,
C'est ça
mais
qui
j'ai
est
connu une
fou.
autre Lydia franco-maghrébine
Ah non,
aussi
mais
quand
c'est
j'étais plus jeune.
incroyable, c'est vraiment le prénom, il veut tout et rien dire. Genre,
Ouais.
il a un passing, genre, ça peut faire rebeu, ça peut faire meuf, genre américaine aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes anglo-saxonnes qui s'appellent Lydia. Et ça peut faire
Non, c'est génial.
français, et c'est vraiment, je trouve ça ouf, tu vois. Et au contraire, le parti pris d'aller sur un Théophile, justement parce que pour pas subir du racisme,
Ah,
je
mais
trouve ça
c'était
ouf.
franchement, ah, ils ont mis tous les
Et si tu
compteurs
penses
au
que ton
max, hein.
prénom, il rentre dans le. Je sais pas si t'as vu le site.
Ouais, le
Non,
site, bien sûr. Quoi? Mais impossible de faire plus français que moi. Même Théophile Gautier, Théophile, c'était pas son premier prénom. Là, je suis encore plus Théophile que Théophile. Donc, non, bien sûr. Et mes autres profs s'appellent Gustave Wahel et Léopold Anwar. Donc, tu sais, vraiment, ils ont vraiment ces formes, mais surtout les. Mais c'était obligé finalement. C'était obligé. Genre, à un moment, mon père, il a dû faire les comptes de. Genre, les pour et les contre d'avoir tel prénom et tout. Bon, des prénoms pas stéréotypés français. En échange, on a un appart, un taf.
Et mais il a pas choisi des prénoms, genre. Tu vois, il passe partout, genre Ryan.
Et Ryan, c'est.
Ryan, on sait.
J'habite dans le 9-3. Ouais,
hein. Non, c'est sympa, c'est genre Ryan, je sais pas.
Il y a personne qui. Non,
Sarah, tu vois. Sarah, c'est.
Sarah, ouais.
Ouais, mais là, j'essaie de réfléchir à des prénoms pour les garçons.
Non, je pense que ça a des prénoms avec leur histoire.
Non, non, je
sais pas.
Voilà. Non, non, je pense qu'ils ont voulu prendre de beaux prénoms français.
Ouais. Et avoir un assumé.
Ouais, bien sûr.
Bah ouais, s'il dit que son père prend sa pendoulou de sa mère de faire les. Tu vois, j'imagine le.
Mais c'est choc, c'est une schizophrénie de ouf. Ouais. J'ai des cousines, genre j'ai une cousine, elle s'appelle Sylvie. Son prénom rebeu, c'est Eptissem. Et du coup, il y a personne. Moi, quand les gens l'appellent Sylvie au taf, même quand elle s'est mariée à la mairie, ils ont dit Sylvie. Je me suis dit, mais pardon, en fait. À chaque fois, ça me choque de ouf. C'est une schizophrénie, je comprends pas, en
mais
fait.
Mais tu sais, c'est un truc, par exemple, que les Chinois, ils ont beaucoup.
Ouais.
Les Vietnamiens aussi. Ouais. Genre les Vietnamiens, ils s'appellent tous prénom français, prénom viet.
C'est ouf.
Quand ouais. Alors pas mal de Chinois qui arrivent en France, de Chine, ils adoptent un prénom occidental.
Ouais, tous.
Donc c'est assez.
Ouais, ce qui est encore plus violent, c'est parce qu'on leur dit ouais mais
c'est ça.
Mais culturellement les Hongkongais, Johnny Cheng, tu vois, ouais. Que des trucs à base de prénoms anglais parce que Hong Kong sous une nation anglaise et une famille chinoise. C'est terrible, j'adore. Enfin, c'est.
Mais en même temps.
Culturellement, c'est impossible de voir ça sans comprendre qu'il y a un lourd passé derrière.
Ouais, c'est ça en fait.
Ça te met le truc dans la gueule, tu veux pas l'ignorer en fait.
C'est ça, mais c'est vraiment ce que tu disais, c'était aussi un problème de prononciation.
Ouais, aussi,
moi,
ouais.
Je sais que quand j'étais au collège, les chinois de ma classe c'était Sébastien. Tiens, Henri, Charles, nanan. Et on avait un seul qui s'appelait Tian Chiang. Mais du début à la fin de l'année, je pense qu'aucun prof n'a su dire son prénom. Genre. Et quand
violent.
Il dit
ouais,
qui s'appelle Tian Chiang, genre tout le monde est là en mode quoi ? Genre tu peux répéter, tu peux l'écrire.
En plus, avec les tons, parce que le chinois c'est une langue
tonale. Ouais, et là je le prononce à la française.
Imagine, là je crois que tu vas insulter sa mère.
Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est ça qui est. Enfin. Ça c'est vraiment horrible parce que genre autant nous ça enfin nous je vais pas dire ça va mais en mode nos prénoms sont prononçables dans la langue française.
Les problèmes
plus
sont
ou moins.
Différents.
Et encore.
Ça dépend
et encore.
Ça dépend.
C'est un coq un peu compliqué là.
C'est ça. Mais genre c'est vrai que genre pour la communauté asiatique c'est vraiment.
Ouais. Il y avait un chinois dans ma classe qui s'appelait Xia Shun et genre il se prononçait et il disait mais bon appelez-moi Jacques.
Oh, c'est quoi?
Il dit je m'appelle Chiachune mais appelez-moi Jacques.
Ouais.
En mode bon je sais que c'est une cause perdue parce que quand t'arrives quand t'as 17-18 ans au lycée tu te dis bon ça fait déjà 17 ans que je subis du racisme à cause de mon prénom. Appelez-moi Jacques, genre vraiment le mec il avait laissé tomber quoi.
Ouais,
c'est
pareil, enfin un autre truc, genre Lydia, je me souviens que t'avais parlé de l'anecdote.
Je sais ce que tu vas me sortir.
Sur la cantine.
Ouais. Mais c'était un traumatisme. Hein. Je pense que si un jour je vais voir un psychologue, je vais lui en parler.
C'était quoi l'anecdote?
Attends, vas-y. Raconte. Alors, en fait, genre, j'aurais voulu savoir si vous aviez un peu des anecdotes de ce type. Genre, toi, par exemple, au moment où on t'a vraiment pas.
On t'a vraiment pas respecté.
Ouais, genre en mode impossible de penser que t'étais rebeu, tu vois.
Alors, il faut savoir que du coup, je suis franco-tunisienne, mais je suis aussi musulmane, puisque j'ai pris la religion de ma mère. Et la première fois qu'on m'a vraiment refusé ma religion et du coup bah, un peu mon appartenance à une communauté, c'est quand j'étais en CE1 à la cantine. Il faut savoir que comme il y avait quand même pas mal de musulmans dans mon école, il y avait des menus sans porc. Du coup, je vais voir la dame de la cantine et je lui demande « Est-ce que je pourrais avoir le menu sans porc, madame, s'il vous plaît ?» Elle me regarde et elle me dit « Bah non ».
J'avais entendu.
Elle m'a dit bah non, et du coup ils m'ont servi une saucisse que j'ai évidemment pas mangée parce que je sais que ma mère elle m'a dit tu vas aller en enfer et tout. Du coup j'ai dit non, je vais pas manger la saucisse et tout. Et je suis arrivée chez moi, ma mère elle était morte de rire, genre elle comprenait pas à quel point c'était violent en fait. Et ma mère elle était morte de rire, hein. Et vraiment elle l'a sortie à genre c'était sa blague du moment, tu vois. Et elle sortait à toutes ses potes, elle a dit oh ma fille elle veut manger une saucisse musulmane et tout, elle veut pas manger la saucisse de la cantine.
Mais en tout cas, les musulmans en France on peut raconter des trucs sur la cantine,
ouais, mais vraiment. Mais la cantine, et du coup ça c'était en primaire. Mais genre même jusque au lycée, la dame de la cantine elle voulait pas me servir le poisson, ça me c'est vraiment
oh,
à
c'est
chaque
chaud.
À chaque fois je devais débattre avec elle en mode madame, je ne peux pas manger de porc, enfin je mange pas de porc, wow. Tu vois. Elle était là en mode oui, mais il y a pas beaucoup de poisson, il faut le laisser aux vrais musulmans et tout. Non, elle ne faisait même pas aux vrais musulmans, aux vrais rebeux, tu vois. Genre en mode elle faisait même pas la distinction religion,
ouais.
Ethnie et tout.
C'est ah ouais, parce que tu veux même pas y aller en mode chadoullah.
Ouais,
claque profession de foi, c'est non non, que dalle. En plus non.
J'aurais dû venir ranger là-bas, ça l'aurait peut-être convaincu de me donner du poisson.
Faut décoloniser ta cantine avec une abaya.
Vraiment, décolonisons les cantines françaises.
Ouais, parce qu'il y a un gros travail à faire.
Ah vraiment.
Genre t'as l'impression que tu vois cette envie comme on dit d'assimilation, enfin même à la cantine ou un truc, pour moi c'est, enfin tu vois, le petit, enfin aujourd'hui on a des enfants peut-être qui vont être végétariens et on leur fera même pas ce, tu vois, ce
c'est ça.
Cette, cette guerre de non, l'enfant quand il est petit il a besoin de ci de ça, oh tu vois, enfin après je pense qu'il y a aussi comment les parents accompagnent ça avec les enfants, des fois c'est peut-être un peu trop, je trouve, brutal, tu vois, faut expliquer à l'enfant que bon, c'est un autre débat, mais tu vois, moi je sais que quand j'étais petite on m'expliquait que voilà, la viande de la cantine elle est pas halal, que voilà, nous on est musulmans et qu'on mange la viande halal, donc t'en manges pas le midi mais le soir bah une, tu vois, tu auras une grosse portion de viande, enfin il y avait ce truc où du coup t'étais pas frustré déjà et où tu comprenais le truc et mais eux c'est, enfin le système scolaire c'est une dinguerie quoi, ils sont là à te, ils te sortent des comment dire, des justifications qui tiennent pas la route quoi, tu vois.
Mais c'est parce qu'ils sont dans un truc de laïcité, en fait ils se rendent même pas, et avec leur laïcité ils se rendent même pas compte que ben c'est même pas faire du cas par cas, mais c'est juste s'adapter en fait, et
c'est
en fait
ça.
Je trouve que la France elle est tellement dans un déni de ce qui se passe sur ton territoire, et ils prônent une certaine forme de laïcité qui est la même pour tout le monde, mais en fait au bout d'un moment c'est pas possible.
Bah,
on peut pas
CF les campagnes sur la laïcité.
Ah non, mais ça aussi c'est la non, mais
genre Michel, Leïla et Quentin peuvent lire le même livre.
Au fond du gouffre, au fond du gouffre.
Moi j'en ai vu une, c'était genre Ismaël et Imran apprennent à penser par eux-mêmes, genre les livres, tu sais, ils disent un livre et tu dis c'est de la propagande, mais c'est même pas déguisé en fait.
En fait, c'est de la propagande, c'est vraiment
c'est,
ça, c'est pas.
Non, mais là aussi.
Mais enfin, surtout que je vois pas ce que le prénom vient faire dans la laïcité. Genre...
On sait très bien ce que le prénom va avoir à faire dans la laïcité. Les Mohamed, c'est pas des vrais français.
Je sais plus s'il y avait un prénom genre français dedans.
Non, non, mais bien sûr.
Ouais, à chaque fois c'était un prénom français, un prénom un peu.
Ambigu, ouais.
Des îles, tu sais pas.
Non, non, mais c'est de l'indigénat. On nous ramène à une condition d'indigène qui doivent être sauvées par les lumières françaises.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ils pensent avec ça faire une sorte de... Ils essayent en fait de faire de réunir tout le monde et ils essayent de dire ouais, on est tous pareils, etc. Mais en fait, ils nous renvoient à notre identité et en fait,
c'est
ça nous divise encore plus.
C'est ça.
Et c'est, ils se rendent pas du tout compte de ça en fait.
C'est ça,
si, je pense qu'ils s'en rendent compte et que c'est fait exprès après.
Ouais,
c'est
sûr.
De ouf.
Vous pensez qu'ils genre, ils ont fait exprès en mode.
Bah oui, en fait, on te nie ta différence, tu vois. C'est genre,
ouais.
Non, on est tous pareils, tous égaux, tous machin, etc. Mais en fait, dans ça, il est là le fond du problème. Ça veut dire qu'on te nie ta différence, ta spécificité, une partie de ton identité, tu vois. Et c'est ce qui fait que t'as des gros clashs après, tu vois.
Et surtout, on te dit, va vers la normalité qui est Jean-Michel Mécouille, qui lui mange du porc,
voilà, c'est ça.
Fait pas Shabbat, ou plein de trucs.
Mais je crois que ça va au-delà, hein. C'est plus. En gros, on nous associe à une religion, et cette religion-là, elle est pas compatible avec des soi-disant valeurs républicaines françaises. Et enfin, moi je sais qu'il y avait, je sais pas si vous voyez qui c'est, Pascal Bruckner. Je crois que je t'avais déjà raconté, Lina. En gros, c'est Pascal Bruckner, c'est genre un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Racisme et culpabilité. Islamophobie, 2. Un racisme imaginaire, un truc comme ça.
Ah!
Et donc, lui il est venu faire une conférence dans notre fac, parce qu'il a été invité par un directeur de master. Du même bord. Et en gros, pendant une heure, il disait qu'en gros, justement, la religion musulmane n'était pas compatible avec les valeurs françaises, qu'il fallait réformer le clergé musulman. C'était comme s'il y avait un clergé dans l'islam. Qu'il allait falloir... Ouais, qu'il faut qu'il y ait des initiatives du gouvernement, etc., pour vraiment réformer genre, le culte musulman, mettre en place un clergé, machin. Mais vraiment, un clergé étatique, limite. Et le problème, c'est qu'on était 400 personnes. Enfin, c'était l'amphi le plus grand de la fac. Et moi, là, je trouvais ça archi-violent. Mais tout le monde était d'accord. Tu sais, les gens, ils applaudissaient, ils rigolaient ces petites blagues et tout. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Genre, il y a un problème où les musulmans, ils sont vus comme des... Je sais pas, des... ouais, des gens qui sont pas français en fait.
Il faut les rendre dociles à nos valeurs françaises, bien comme il faut.
Et puis les musulmans, on sait c'est qui, c'est les arabes, tu vois.
Ouais, ça, bien sûr, c'est
ça. Tu serais pas à ça, c'est par hasard.
Même pas.
Quand on pense musulman en France, en vrai, musulman, c'est juste le beau mot pour dire les arabes.
Ouais, bien sûr,
c'est parce que, évidemment.
Et la costéenne, comme il dirait sur TikTok.
Ou la costéenne, du nul, tu vois. Genre, tu sais, quand les gens disent musulman en France, tu penses pas aux noirs. Tu penses pas aux Indonésiens, aux Malaisiens, tu penses à uniquement aux, même pas les Arabes, les Maghrébins, genre, carrément.
Mais j'ai une autre anecdote aussi là-dessus, et du fait d'être genre arabe. En gros, pour rester d'Algérie, là, on a eu un projet, il y a une secrétaire de l'Élysée qui a voulu organiser des réunions de jeunes sur le sujet de la guerre d'Algérie. Et donc au début, je voulais pas, parce que je voulais pas faire politique, etc., puis... on s'est retrouvés dans les réunions quand même. Pour la faire. Et première réunion, on y va, fallait se réunir. Et puis on allait aux tables qu'on voulait en fait. On rejoignait des tables en fonction des sujets qui étaient proposés. Moi j'étais allée sur le thème programme scolaire. Je trouvais que c'était plus intéressant. Mm-hmm. Et que la priorité allait à mettre dessus.
Oh, bien sûr.
Forcément, sur cette table-là, il n'y avait que des franco-algériens. Ou juste algériens. Et donc on s'est retrouvés entre nous, c'est en train de parler. Enfin, quand je dis entre nous, c'est des personnes qui ont vraiment un vrai lien direct avec l'Algérie. C'est pas le grand-père militaire qui a fait la guerre là-bas pendant un an. Et bref. Et la fois d'après, en fait, on nous a reproché de faire du communautarisme mémoriel. Genre, mot pour mot,
c'est
ça.
Mais c'est ouf.
Ouais, c'est ouf.
Mais
pourquoi ils vous ont invité alors,
ils voulaient qu'en fait, et le délire c'est ça, c'est l'espèce de consensus républicain. Parce qu'au début c'était parti sur on va faire des recommandations par atelier. Au final ça a fini en non en fait on fait 10 messages, on se met tous d'accord, on écrit ça tous ensemble, machin. Parce qu'en fait il n'y a pas assez de diversité dans les ateliers. Mais c'est ça. Il faut se demander pourquoi les autres ils se sentent pas concernés par la question des programmes scolaires, tu vois.
Bah ouais.
Mais c'est juste pour. En fait ils voient tout à l'envers, c'est un truc de ouf. Et tu perds trop de temps quand tu leur expliques les choses, ils veulent pas comprendre. Donc, du coup, ça veut te. Faire du communautarisme.
En fait, je pense que le truc, c'est que de base, vous n'étiez pas invité pour donner votre opinion, votre vécu.
Si, justement. Ils nous ont invités pour ça. Sauf qu'il fallait qu'on le donne comme eux veulent.
Voilà.
Voilà.
C'est pas ton opinion, c'est leur opinion, finalement. Ouais. Que fallait que tu donnes. De façon un peu humoristique, t'as la série Au service de la France sur Netflix. Mais
C'est quoi ?
Écoute, c'est génial. C'est fait par deux gens qui ont fait bosser notamment sur OC-117. Mais c'est un gros foutage de gueule des services secrets français pendant les décennies de la décolonisation de l'Empire français. Et en fait, du coup, il arrive que de la merde, c'est des gros tocards, et c'est génial. Et surtout qu'à un moment, on voit un peu bien, de façon extrêmement honnête, comment sont faits les processus de, entre grosses guillemets, de démocratie en Afrique post-coloniale, où en gros, les mecs, il y a une décolonisation qui se fait dans tel pays, il me faut des candidats pour qui va être président. Faites-les venir au service, tu vois. Et donc, t'as des mecs qui passent d'entretien d'embauche pour être président du pays qui viennent de décoloniser. Et alors, vous, qui êtes-vous ? Alors, moi, je suis poète et tout, je suis un homme de lettres et tout, j'aime l'Afrique et tout, machin. Ok, vous, moi, je suis un tyran sanguinaire. Ok, on vous prend, clac, c'est bon, vous êtes président, félicitations, ça arrange demain, hop, rentrez dans votre pays.
Un joli clin d'œil à Bouteflika qui est mort aujourd'hui.
Ouais,
ouais.
La claque, il ne l'emportera pas au paradis. Voilà.
Ouais.
Et voilà.
Là, ils vont faire des t-shirts Bouteflika et tout, genre comme quand Chirac il était mort et
qu'il c'est génial.
Où il saute le métro et tout.
Il faut arrêter de les rendre cool, hein.
Mais il faut arrêter.
Moi j'ai que des photos où est-ce qu'il était jeune et beau et en noir et blanc,
tu vois. C'est pareil, j'ai vu cette photo.
Non,
je me dis, oula, c'est pas du tout le souvenir.
Non, c'est un zombie. Il va arriver en enfer, il va devoir s'expliquer avec tous les disparus. Donc voilà. Et du coup, ce qui se passe dans cette série-là, voilà, t'apprends et tu vois de façon extrêmement. Bon, c'est drôle parce que c'est une série drôle, mais surtout c'est extrêmement honnête. Sur le fait que, t'es le dirigeant de ton pays, c'est génial, on va te dire quoi dire.
Mmh.
Et parce qu'en fait, on n'est pas vraiment parti. C'est juste que maintenant, c'est un mec qui ressemble aux autres qui va prendre les rênes, mais
voilà,
on reste derrière le truc. Et voilà. Et du coup, c'est à quoi je pense, en fait. Mmh. C'est qu'ils voulaient pas que tu dises ce que tu voulais dire ou que tu relèves de vrais problèmes.
C'est comme quand on
est tous les mêmes, on est tous blancs, et on va tous se rejoindre dans cette blanchité suprême et universelle, et on va faire une jolie lettre consensuelle où tout le monde signe en bas de la page. Et on est tous d'accord. Et éventuellement, si t'es très très d'accord avec eux, tu vas éventuellement avoir des privilèges sur d'autres sujets où, genre, on va t'inviter un peu plus souvent pour représenter une parole un peu officielle, tu vois. tout en ayant le fait que tu aies une voix qui porte dans des communautés.
Moi, je pense qu'ils avaient besoin d'arabe sur la photo de classe.
Bien sûr, absolument.
Oui, c'est ça.
C'était quoi le nom de la série déjà ?
Au service de la France. C'est génial, ça traite la colonisation en Afrique noire, mais aussi en Algérie, et aussi l'espionnage dans les pays de l'Est. Très gentil, top. Une bande-son géniale.
Bah, moi, j'ai déjà dit plus ou moins comment j'ai vécu ma double identité arrivée au collège. Il faut savoir que, du coup, je l'ai déjà dit, mais je viens de Sergi-Pontoise. Et c'est une ville qui est vachement métissée. Je suis hyper contente d'avoir grandi là-bas. Parce que, arrivée en province pour mes études supérieures, je me suis rendu compte que j'avais pas. Enfin, là où j'ai grandi, c'était pas la norme. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de stéréotypes, justement, parce qu'ils n'ont pas grandi entourés de plein d'origines différentes. Mais du coup, voilà, il y avait les clans, en mode... le premier truc qu'on demandait, c'est ton prénom, ton âge, et c'est quoi ton origine, en fait. Du coup, quand on me demandait, je disais, je suis tunisienne, et le fait de me dire... le fait qu'ils me disent non, en fait, ça m'a vachement... En fait, j'osais même plus, limite, le dire. Et j'avais... Ah, parce que je savais que derrière, j'allais me prendre des réflexions, en fait, et que... soit en fait on allait me demander de prouver des trucs en mode limite montre-moi la photo de ton passeport montre-moi si t'as je sais pas une autre passeport autour du cou, c'est débile tu vois, mais c'est ce genre de truc, et montre-moi une photo de ta mère, tu vois, genre vraiment on me demandait vraiment de prouver ça. Et c'était limite une question qui m'angoissait quand on me la posait, parce que je me suis dit, ah, je vais me prendre grave des réflexions. Et on va me dire que c'est que je mens, et on va me dire que je m'étonne, que je m'invente une vie, ou que je vais être cool. Parce que oui, avoir des origines, bah, c'est cool quand même, tu vois, genre appartenir à une communauté, c'est cool. Et voilà, et je remarque que j'ai quand même beaucoup moins ça. Donc c'était vraiment la période collège, début du lycée, mais surtout collège, où les gens en fait ils sont juste bêtes.
Ouais.
Et parce que maintenant quand je me présente et que je dis que je suis... bon, après il y a quand même des personnes qui me disent « Ah bon, on dirait pas ?» J'ai envie de leur dire « La prochaine fois je viendrai avec mon chameau et ma djellaba et je ferai des you-you, comme ça tu comprendras que je suis tunisienne, tu vois. » Maintenant quand je le dis, en général c'est assez bien reçu, et c'est plutôt... genre, ah ouais, c'est cool, tu vas souvent là-bas, c'est ta mère, ton père, mais j'ai beaucoup moins ce truc de... En fait, je me sens moins comme une fraude, quoi.
Ouais, maintenant, je
me sens beaucoup plus... j'ai moins le symptôme de l'imposteur de ma propre origine, c'est quand même assez... Franchement, c'est quand même ouf, quoi, d'avoir ce sentiment du syndrome de l'imposteur de toi-même, en fait. Genre, t'es ton propre imposteur, tu vois. Et je trouve ça quand même plus cool. Bon, après, j'ai 25 ans, donc c'était pas trop tôt, mais...
On a des expériences extrêmement proches. D'ailleurs, RPZ, la Ramsar.
Ah, mais oui, du coup maintenant,
franchement, le truc.
J'ai même Allah autour du cou, hein, comme ça, si on me pose une question.
Ah non, mais franchement, c'est génial.
Non, mais en plus, tu te sens d'accord avec toi-même quand tu portes ça.
Non, bien sûr. Mais en plus, la mienne, elle est super grosse. Je l'ai fait faire sur mesure et tout.
Grave.
Donc voilà, pour vraiment. Mais aussi pour moi, en fait, c'est un truc qui me
plaît. C'est aussi pour toi, ouais.
Et c'est vrai. Bah, en fait, du coup, voilà, c'est pour ça que. Quand tu me racontais, vas-y, prouve-le. C'est vrai, quand j'étais au collège, je pouvais rien prouver. Enfin, après, ici, j'avais mes vaches. Effectivement, c'est là où on me disait, non, mais attends, t'es sûr que t'es pas juif ? Ok, alors, c'est quoi le rapport ? On peut être juif algérien. Mais surtout, et voilà. Puis aussi, je n'ai pas une caille, j'ai pas une caillera. Ce qui peut être vu est quand même extrêmement cliché, mais entre 12 et 15 ans au collège en 93, si, il fallait être une grosse caille, c'était impossible de...
Enfin, fallait avoir le look.
Fallait avoir le look.
Tu vois, fallait pas, genre, c'était pas des trucs de grand bandit, tu vois, mais fallait avoir le look jogging.
Au collège, t'étais pas un grand bandit, mais ouais, bien sûr, fallait avoir le...
Full Adidas.
Ouais, bien sûr, fallait avoir le look. Ouais. J'avais pas le look.
Puis au collège, c'est mode te couper, mais y a, comme tu dis, les gens sont bêtes. Que tu sois rebeu, renois, tout ce que tu veux, dès que tu t'exprimes un peu... mieux que la normale. Ah, mais pour tu veux faire le français,
ouais,
tu veux,
bien tu vois, sûr. Y a ce truc en très... plus, ouais, bien sûr. Non, mais absolument. Après, moi aussi, je faisais partie d'une catégorie socio-professionnelle où moi, j'étais en classe musique. Et là, par contre, j'étais dans une... Voilà, avec beaucoup de blancs. Les rebeux, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était surtout les autres qui n'étaient pas en classe musique, qui n'avaient pas ce privilège-là de faire de la musique dans le contexte scolaire.
Et est-ce que quand
un peu, je dis naturellement, donc tu vois, c'est un peu chelou. Mais c'est vrai que j'étais traumatisé par tous les rebeux qui me disaient, non, c'est pas possible. Genre, mec, t'as un métalleux.
Je parlais son arabe carré.
Ah, bien sûr, t'as un métalleux, tu manges pas de couscous à la maison et t'es pas allé au bled depuis 10 ans, c'est pas possible. Non, on t'enlève ta carte d'arabe.
Mais ça fait penser à Amel, enfin Amel elle est pas là aujourd'hui, mais elle fait partie de l'émission qui, elle expliquait que quand elle était plus jeune, elle était grave dans le rock et tout, tu vois, elle est marocaine. Et que, bah, du coup, c'était genre pas normal dans le 9
ans, ouais,
d'être
sûr.
Comme ça, enfin d'être une
nouvelle, bah, oui.
Genre
d'être
mensonge. En plus, c'est les chla, du coup, si on lui demande de parler en arabe marocain,
elle va juste.
Elle va cligner des yeux, tu vois, tout ça. Donc, et tu voulais dire, Lydia ?
Oui, j'avais une question. Mais est-ce que tu vois, genre, paradoxalement, le truc de genre on te refuse ça, est-ce que justement quand t'étais entourée de blancs, parce que moi ça me l'a fait, notamment dans mes études supérieures, quand j'ai fréquenté des milieux beaucoup plus franco-français que ce que j'avais l'habitude de fréquenter, est-ce que justement on te renvoyait pas tout le temps à ce truc, justement parce que t'étais un peu la seule personne différente du groupe, tu vois ?
Je l'ai caché énormément.
Okay.
Déjà après j'ai aussi ce Théophile, tu vois, c'est mon petit passing, tu vois, et mais aussi Choutri, c'est un nom extrêmement rigolo. Il est très français mais pour les mauvaises raisons. Il est français parce que c'est un nom qui a été donné par l'administration coloniale française à mes ancêtres. Mm-hmm. Il y a pas beaucoup de Choutri en Algérie. Choukri énormément. Mm. Chaudri en Pakistan, mais il y en a masse. Choutri, tu les comptes sur le doigt d'une main. Franchement, il n'y en a pas des masses. Donc voilà, donc en fait Choutri c'est suffisamment... Après ça finit avec un I, ce qui est un petit détail, mais en fait les noms français qui finissent en I, ils finissent souvent en Y, parce que c'est une belle façon d'écrire, de finir le mot. En I c'est vachement nord-africain. Genre Ben Guigui par exemple, tu vois, pas mal de trucs. Nord-africain, juif ou arabe ou musulman, tu vois. Donc finalement, non, j'ai vachement caché ça en fait. Finalement j'ai fini par le cacher. Ma revendication, elle s'est faite de façon extrêmement solitaire et tu vois, à l'intérieur de moi-même. J'ai commencé par des trucs genre la musique, par exemple. Genre, on m'a offert une darbouka pour un Noël, tu vois. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est musical, parce que je suis extrêmement musicien. Et après, en 2018, j'ai vu un tweet passer qui disait « Hey, on cherche des gens de la diaspora maghrébine en France. Venez au parc des Buttes Chaumont, on va parler un peu. » Et c'est là où j'ai rencontré, en fait, ce qui allait devenir le crew du podcast La Taille. Et ça a été, pour moi, le moment tournant, enfin, un tournant majeur de ma vie intérieur, ou là, et de mon identité en fait. Et là, j'ai commencé à explorer avec un peu plus de légitimité parce que soudainement, mon vécu, il avait un ancrage en réalité. C'était pas juste.
Il était accepté aussi.
Ouais, bien sûr. Puis aussi, je voyais des gens qui avaient le même vécu et tu sais, des trucs.
Mais après, en fait, en plus, dans la team, on a vraiment tous des vécus différents par rapport.
Ouais, on a des profils super différents. Donc en fait, c'était plus. J'étais plus face à une masse informe de la normalité que c'était d'être franco-algérien, tu vois. Mmh. Donc finalement, dans le fait d'être différent. Ben, j'avais une place. Et ça, c'était un truc de ouf. J'étais jamais un original gangsta du franco-arabe. Hein. Franchement, j'ai fait mes découvertes culturelles et identitaires pas plus tard que d'autres, finalement. Mais aussi, du coup, ça veut dire que je suis moins con là-dessus. Franchement, je suis pas un nationaliste algérien. Je me lève pas en faisant le salut.
Il y a un sujet avec le fait d'être en fait.
Tu vas te faire des ennemis là.
Bah franchement, j'ai vu des gens défendre Bouteflika en ligne jusqu'à la mort, et je trouve ça extrêmement minable.
Mais ça, c'est pas être nationaliste, c'est être con.
Ouais, c'est pas ça.
Mais c'est ce que je dis. Ça m'a évité d'être con là-dessus.
Ouais.
Franchement, voilà. Et voilà. Et pour le coup, mais aussi, je suis pas nationaliste dans le sens où je vois des Marocains, mais j'ai pas de problème avec les Marocains. Parce que j'ingurgite pas de la propagande algérienne qui disent « Ah, les Marocains !»
C'est les frontières qui ont été dessinées par les Français.
Et voilà, en plus, voilà, c'est même pas les frontières
qui
font voilà. Je veux dire, à l'ouest de l'Algérie, ça parle arabe comme au Maroc. Enfin, ridicule. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que je dis aussi, là, mon lexique arabe, Darija, il incorpore des mots de Tunisien et de Marocain. Et du patois, de l'argot algérois des années 80. Et je trouve ça, mais c'est un mix extrêmement funky. Genre, c'est pas du tout viable dans une conversation de tous les jours, tu vois. Mmh. Je suis pas mettre une épingle sur une carte du monde et dire voilà, ici c'est là d'où je viens. Mon parler, il vient de là précisément.
Mmh.
Mon parler, il vient de partout parce qu'en fait, j'ai fréquenté des gens de partout. Et parce que vivre dans le 93, c'est vivre avec des gens de partout. Et voilà.
Sacha ?
Ouais, le collège, c'était quand pour toi ?
Ouais, bah franchement, c'était vraiment au collège où, comme tu dis, voilà, déjà, il y a ce truc où tout le monde s'est défini par ses origines, il y a ce truc vachement communautaire, c'est vrai, mais tout le monde va avoir ce sentiment d'appartenance, et là, on traîne ensemble, c'est cool, on se raconte des anecdotes et tout et tout. Et du coup, moi, bah, j'avais un peu le cul entre deux chaises, hein, c'est vraiment l'expression, où voilà, j'étais d'un côté avec les rebeux et quand ils étaient en fait dans leurs anecdotes et tout, je me retrouvais pas trop dedans, tu vois, genre même dans leur façon de vivre, tu vois, enfin nous la culture marocaine elle est présente chez moi mais elle est pas présente enfin elle est pas présente à outrance, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer.
Non, mais je vois ça très bien,
tu vois, genre enfin voilà, je sais pas, il y a un peu de déco marocaine mais ça se mélange avec la déco française, on mange aussi bien des plats marocains que des plats français, enfin tu vois, on parle pas, je parle pas que le rebeu à la maison, enfin mon père il nous parlait rebeu un peu puis après il a lâché l'affaire, tu vois. Donc enfin il y a plein de trucs où finalement quand je traînais les cas avec les rebeux, je me sentais un peu à côté, tu vois. Et quand je traînais qu'avec les Renois, je me sentais un peu à côté. Donc, moi, je sais qu'il y a eu ça, premièrement. Et puis, il y a eu le fait qu'on me refusait un peu toujours ce truc où il y avait toujours cet étonnement. Et en fait, moi, j'ai fini par me définir par ma religion, du coup. Parce que c'est, enfin, ce que je trouve beau, justement, avec l'islam, c'est que tout le monde peut être musulman, tu vois. Et c'est vrai qu'en France, on est là, ouais, c'est rebétoire. Qu'en fait, non, c'est un truc de ouf de se dire que. Enfin voilà, je sais pas, tu vas au fin fond de je ne sais quel pays, t'auras un musulman, enfin, on te l'accepte, ça, en fait. Si tu dis que t'es musulman ou que tu dis que t'es chrétien, etc., on te l'accepte. Et du coup, moi, c'était beaucoup plus simple pour moi, voilà, voilà dans ma religion, je sais que je suis acceptée.
Ouais, mais c'est extrêmement
vrai. Voilà,
c'est trop bien.
Appartenir à la Oumma, t'es des musulmans, voilà, c'est extrêmement, tu sais, ça peut être libérateur, finalement.
C'est ça, et il peut se passer quoi, Dieu m'entend, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ça, c'était vachement apaisant. Et parce que en plus, comme je disais, bah, voilà, moi c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vraiment un moment où je m'en foutais, limite un peu, pas du Maroc, mais d'être marocaine ou quoi, tu vois. Voilà, je suis Safia, je suis musulmane, et puis, enfin, tu vois. J'ai jamais eu ce truc nationaliste, ou. Donc voilà, donc, mais je sais que ça m'a vraiment fait du bien.
Je crois qu'il y a je crois que c'est Malcolm X qui a une expérience similaire à la tienne, pour le coup, il me semble.
Femme.
D'autres personnalités noires américaines qui justement ont trouvé dans l'islam un sentiment d'appartenance un peu plus global, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire
en contraste avec une société extrêmement ségrégation extrêmement forte. Et que, donc effectivement, je comprends absolument d'où tu viens et quel est ton raisonnement là-dessus.
Farah.
Ouais, moi au collège, donc moi je crois que c'est l'inverse de ce que t'as vécu déjà. Parce que moi, en gros, j'ai grandi, enfin, en tout cas, dès le collège jusqu'à la fin du lycée, dans un établissement super bourgeois. Enfin, j'avais que des amis qui allaient, qui allaient à des rallyes.
Oh, fuck.
Ouais, voilà.
Oh, merde.
Vraiment, à ce point-là.
Franchement, j'aurais bien aimé en faire un quand j'étais petite.
J'en ai déjà fait un. Hein.
Tu nous racontes après.
Justement, en troisième, on a fini par m'inviter à un rallye et je me suis dit, ah non, je me suis dit, je suis trop intégrée.
C'est bon, là. Ah, yes.
Et du coup, en fait, je me suis toujours sentie appartenir à genre aucune communauté au final. Parce que mes cousins, ils sont albanais, genre leur mère, leur père, ils sont, enfin, est albanais, donc ils vont parler albanais, etc. Moi, j'ai dit, je vais bégayer à chaque fois. Côté algérien, c'est pareil. Du coup, je me dis, en fait, je suis pas vraiment 100% albanais, je suis pas 100% algérienne, puisque eux, pour le coup, le sont, donc je me compare à eux. Je voyais très bien qu'au collège, j'ai pas du tout la même culture qu'eux, donc. Pour le coup, j'étais vraiment l'arabe de la classe. Donc, je me dis, tu vois pas où est-ce que tu. Enfin, ouais, à quelle communauté t'appartiens.
Est-ce que t'avais un truc où, genre, le fait d'être algérienne, ça primait sur le fait d'être albanais à cette époque-là, parce qu'on te voyait comme arabe et qu'on calcule pas trop.
Ouais, les gens savaient pas ce que c'était l'Albanie. Enfin, chaque fois, ah, t'es libanaise, c'est ça.
Ça, c'est
juste, tu te casses pas la tête à expliquer. Ouais, c'est vrai que je pense que, ouais. Les gens me voyaient plus comme algérienne, mais parce qu'ils comprenaient pas ce que c'était l'Albanie, en fait. Puis aussi, il y a le fait de. Moi, je pense qu'il m'a vraiment pesé, mais vraiment, c'est le fait d'être musulmane. Mais parce que, pareil, j'étais dans un environnement bourgeois. En fait, dès que je disais j'étais musulmane, j'ai l'impression que j'insultais la mère de tout le monde. Du coup, mes parents ne me l'avaient jamais expliqué. Que y a des gens qui sont racistes. Et il y a des gens, l'islam, ça leur fait peur. Enfin, ils m'ont jamais dit. Et du coup, j'ai mis du temps à le comprendre. Et quand j'ai capté qu'en fait, les gens, ils projetaient un peu leur peur sur moi et leurs a priori. Je le disais pas, et tout le monde croyait que j'étais juive et tout. Moi, je disais, limite, ça me va mieux. Genre, je préfère que les gens pensent que je suis juive que musulmane. Et sinon, pour mes origines, après, maintenant, je dirais que je suis plus un caméléon, en fait.
Ah,
je me sens bien partout. Et pareil, dans n'importe quel milieu social, en fait, parce que le fait d'avoir été avec des Capucines, Angéline, Florentine et compagnie, ça fait qu'en fait, je sais très bien... je connais tout, enfin leur culture, en fait, c'est une culture aussi. Aller en vacances à la Pôle,
être riche, c'est une culture.
C'est vrai,
c'est
un lifestyle.
Mais je pense que
le chevalier et tout,
genre le grand point commun qu'on a toutes et tous ici, c'est vraiment notre capacité à nous adapter au final, notre capacité au final. Ce qui nous est défaut, c'était ne pas savoir qui on était, mais au final, si on au final, on sait maintenant qui on est, et du coup, on a eu ce vécu-là de ces traumas-là et ce trouble identitaire, et maintenant, on s'adapte un peu partout et on arrive à très bien à être hyper bien un peu partout, quoi.
Bah, pour rebondir un peu sur la fin de ce que tu disais, moi, j'ai traîné dans les squats, j'ai traîné dans le bal de la Légion d'honneur, qui est un établissement pour jeunes filles qui peuvent y entrer s'ils ont de la famille qui a eu la Légion d'honneur, tu vois. Et en fait, voilà, j'étais dans des bals extrêmement prisés de la haute société française. J'ai traîné avec des polytechniciens, j'ai traîné avec des gens de Saint-Cyr, j'ai traîné avec des squatteurs. Franchement, j'ai traîné, j'étais dans des orchestres populaires, et c'est génial, je trouve. Franchement, j'ai traîné avec plein de gens de milieux extrêmement différents, et à chaque fois, j'apportais un truc un peu extérieur. Mais même dans le milieu professionnel, même, j'arrive à faire ça. Je sais que je suis en mesure d'arriver dans un endroit où tout le monde est homogène et de pouvoir trouver le truc qui manque ou un truc extérieur qui
te fait un puzzle en fait dans ta construction.
Ah, mon identité, elle est multiple. C'est un peu compliqué parfois parce que c'est pas reposant. Tu sais, il y a pas de. Enfin, moi, je sais que j'ai pas de certitude.
En fait, une fois que c'est comme ça, c'est dur de trouver des gens avec qui tu peux être toutes tes facettes
grave.
De toi.
Ouais,
je pense que c'est ça le plus chaud.
Ouais, absolument. Et c'est du coup, c'est aussi peu reposant. Je me lève moins le matin avec des certitudes sur qui je suis, d'où je viens, où je vais. Après, la vie est pleine de surprises pour moi. Et la vie l'a été et elle le sera toujours, pleine de rencontres, de gens qui vont être, tu vois, et tous extrêmement différents. Ce qui, pour moi, je pense que c'est une chance énorme. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu fatigant parce qu'il y a moins de certitudes.
On va faire une pause dans l'épisode, on va passer un son qui... Enfin, je pense qu'il a saoulé tout le monde, mais je vais grave le mettre quand même, parce qu'il est passé partout tout cet été. Pareil, si vous êtes sur TikTok, vous l'avez trop écouté. Oula.
C'est que hier j'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait on est fatigué avec ce son, arrêtez, ça fait 4 ans le son il est sorti.
Tu sais que j'arrive pas, tu sais que j'écoute tous les remixes, le remix français, le remix nord-africain, le remix j'ai tout écouté.
Yes.
Bah, et du coup ouais, le remix que je vais passer, du coup c'est le remix North African remix avec El Grande Toto. Et voilà, dès que je vais balancer le son, de toute façon, vous allez reconnaître. On écoute Love No One Titi de CK. My baby, my valentine. Can I hit the making with the temperature days? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought in me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Nobody they back and it's real love. Open up, make us feel love. Yeah, my love wanting to me make a bad man feel.
Chaque fois je sais te pister, baby. Sans vrai ma vie, je me tâche de l'air. Quand je rappe, quand je vois que je suis un bébé. Très joli Christ, lance des cales à la ficelle. C'est nouveau pas ton mec, ma guébarre et chauffe mon fils. Tiens, moi, lui, dis que bravo, arrête au fin. C'est comme taille, je n'ai qu'un dire. Quand ça rafle, c'est la 10. C'est comme grippe, je lève trop de temps. Trop voyant, pas qu'il est court. Là où est-ce que ma soeur, j'ai combat. Lovin' et ma baby, beau. Lovin' et rendez rosa ou ta.
Les recommandations. Alors moi, ma recommandation, pour une fois, c'est un truc un peu particulier parce que c'est une citation d'un son.
C'est un son d'un rappeur qui s'appelle Earl Sweatshirt. Ceux qui écoutaient Tyler the Creator à l'ancienne doivent connaître. Il faisait partie de Hot Future et tout. Et il y avait un album, je crois que c'était Doris. Il me semble que l'album il s'appelle Doris. Que j'avais trop aimé. Dedans, il y a un son qui s'appelle Chum, dans lequel il dit Too black for the white kids and too white for the blacks. Et je trouve que même si aujourd'hui on n'a pas parlé du métissage qu'on connaît, genre, c'est-à-dire quand on pense à métis, en vrai, on pense toujours à noir-blanc. Je trouvais que ça résumait en fait plein de trucs sur. Too white for the black kids and too black for the whites, mais en gros c'est aussi même enfin si t'es 100% d'un truc genre que t'es pas à l'aise là où dans le ton premier pays dans ton deuxième pays dans... et je trouve que enfin je sais pas j'aimais bien genre c'est pas le son il tourne même pas autour de ça ou quoi mais enfin je trouvais que c'était intéressant à mentionner voilà Safia.
Ouais, alors moi, ma recommandation, c'est le Instagram The Mazish Project. C'est un projet qui a été lancé par une fille qui s'appelle Safia. Et en fait, ça a pour but de témoigner, de mettre aussi en lumière les personnes afro-arabes. Et voilà, il y a plein de... Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de témoignages hyper intéressants. Ça éduque aussi un peu sur pas mal de sujets, donc grave cool.
Ah. Alors moi ma recommandation c'est une série de 3 documentaires de Yamina Benguigui qui sont sortis en 1997, c'est Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin et donc en fait ouais ça raconte un peu l'histoire de la génération bah moi personnellement c'est la génération de mes grands-parents du coup côté algérien et je pense que c'est intéressant de connaître son histoire et puis je pense qu'on est les seuls à même à raconter l'histoire aussi de nos grands-parents et de la faire connaître.
Théophile.
Après 10 ans de lobbying acharné, après 10 millions de dollars dépensés, la Hamsa Connection présente le nouvel emoji Hamsa dans le standard Unicode 14. Et oui, ça arrive dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, dans vos stories TikTok. Ça va être surutilisé. Franchement, je vibre. Franchement, je lévite à 3 cm du sol actuellement. C'est génial. Déjà, le nouvel emoji théière.
Ouais, la théière. Oh là là, comment ça, quand il est sorti.
Ça, franchement.
Et sur le coup.
Tout le monde était saucé, mais là, ça va être magique.
Je mettais partout.
Donc voilà, donc là, franchement, ça arrive dans les bacs très très prochainement. Parce que là, ça arrive dans la rue. Aucun survivant, aucun prisonnier. Voilà, c'est là.
Lydia.
Oh, ce teasing là, je suis impressionnée.
Classe.
Alors, moi, ma recommandation, ça va être un peu moins majestueux que ça, mais c'est un podcast qui est quand même assez cool, qui s'appelle L'Orient à l'envers. Et sur Insta, c'est Orient-envers. Et c'est un podcast, du coup, de géopolitique au Moyen-Orient, qui dure à peu près une heure, 50 minutes, une heure. Et ils font pas mal de podcasts, par exemple, autour du Qatar. Là, je vois un épisode qui s'appelle Le Qatar, de l'isolement à l'affirmation. L'Iran, les réalités du mythe, de la Palestine aux Palestiniens. Donc, je trouve que c'est assez intéressant pour connaître la situation géopolitique de cette région assez malmenée.
Ça a l'air vachement cool.
Ouais.
J'ajoutais ça déjà, que je lis vachement Orient 21, qui est un site super vachement cool.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Soutien d'ailleurs au fondateur, qui est dans la liste des gens de l'extrême droite. Alain Grèche, je crois. J'ai mal prononcé son nom de famille, désolé. Mais oui, non, bien sûr. Mais c'est un mec qui fait un très très bon travail. Du coup, il a ouvert Orient 21 et il s'est retrouvé dans la blacklist des gens à battre, de l'islamo-gauchisme, dans laquelle le podcast n'apparaît pas, donc pas merci.
Bah ouais, hein. En fait, moi je suis descendue toute la liste chercher mon prénom, genre, je suis choquée, franchement je suis déçue, genre.
Franchement.
Genre vous avez pas fiché la taille.
Non, mais on va devoir mettre tous les niveaux à. Voilà, non, mais c'est terrible.
Mais je pense que ça c'est juste la partie visible de l'iceberg, à mon avis, si vous commencez à faire des fiches comme ça.
Ouais, je pense,
ouais. Beaucoup plus d'informations que s'y prétendent, donc. Faites attention à vous.
Donc moi j'habite à Montreuil, le sang, la zone, voilà, venez me chercher. Non, et
moi Sergi, on vous attend.
Voilà, M on fermé.
Vous allez attendre longtemps, venez, il y a personne qui vient à Sergi, c'est trop long.
Venez.
pour se faire à Sergi, faut le vouloir.
Ouais, faut vraiment prendre.
Tu donnes un tête à Sergi, le mec il veut vraiment en découvrir.
Si bien. C'est moi aussi, il y a même pas de gare. Ni à Clichy, ni à Montreuil.
Les gens qui ont un problème avec moi au Qatar, venez, on se retrouve à Paris, je vous attends.
C'est un peu ça le mood, ouais.
La Tchaï est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Amel, Diète, Théophile,
et Blaise. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.lateipodcast.com. Cet épisode de Latei a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant Latei, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @LateiPodcast. On se retrouve bientôt, inchallah.